レルヤハアレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハMoi je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Alléluia. C'est avec vous et avec moi. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Luc, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait quoi penser. En effet, certains disaient que Jean le baptiseur était ressuscité d'entre les morts et d'autres disaient c'est Élie le prophète qui apparaît. Et d'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Mais Hérode lui disait, Jean, c'est moi qui l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire des choses semblables? Et il cherchait à voir Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il vienne resplendir, recouvrir comme un manteau de sa lumière vivifiante. Et bénis toute l'orbe de la terre. Puisqu'aux limites du monde, comme la rosée dans la verdure qui pénètre toute chair, assoiffée de sainteté divine, virginale, toute pure et sainte, qui puisse voir cela dès cette terre devant leurs yeux, s'ouvrir les portes de la Jérusalem. Libre de tout endroit, lavé de toute faute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, louange à toi, Alléluia. Luisa Picaretta, bon, c'est Jésus qui s'exprime, donc c'est un peu normal. Maurice Saint-Tel. Il y a quand même quelques... c'est très profond, c'est très... c'est pas une question que ce soit profond, c'est que... Et c'est lui qui prêchait... Paul VI lui avait demandé de prêcher au Vatican pour qu'il y ait quand même une vie théologale, mystique, spirituelle, de lumière. Enfin voilà, je vous signale quand même, parce que c'est bien de savoir ça. Il y a des prêtres comme ça. Si un jour vous voyez par exemple le Père Chardon, la croix de Jésus du Père Chardon, je serais désolé qu'il y ait quelconque d'entre vous qui n'ait jamais lu la croix de Jésus du Père Chardon. Ce serait inouï. Inouï. C'est comme parler à l'imitation de Jésus-Christ, Père Chardon, c'est... Saint-Dominicain, Père Chardon. Et vous avez raison. Avec tous ceux qui faisaient oraison avec lui, d'ailleurs, il est tombé en extase, toujours, dans chaque oraison. C'était joli, hein, couvent dominicain à l'époque. C'est des prêtres de la lumière. D'abord un océan, on pénètre dans la grâce de Jésus. Et cette nuit est tellement profonde, tellement épaisse, qu'on s'y habitue. Et une fois qu'on s'y habitue, qu'on l'aime, on voit tout. On n'entend rien. Mais on voit tout. Alors on voit tout divinement, enfin, donc avec l'essence, avec la substance de l'âme. Surélevé, assumé dans la lumière, la première procession. Et à un moment, il y a une assomption, ravissement. Il rentre dans le royaume de la lumière. Et...
Dieu nous a créés dans une seule finalité. La finalité naturelle de l'homme, c'est justement pas la vie humaine parfaite. C'est la vie divine parfaite, c'est la vie de Dieu. C'est ce que Dieu vit parfaitement à lui-même. L'homme, nous, chacun d'entre nous, nous sommes capax dei, capables de Dieu. On a été créé pour aller jusqu'au fond de la lumière surnaturelle divine, de la foi, celle qui nous enfonce dans l'intériorité de Dieu, à travers la nuit totale de la perception humaine. Et une fois qu'on est pacifié comme ça, dans l'union à Dieu continuelle, cette union continuelle, plus la moindre inquiétude, jamais, à aucun moment. Ça, c'est la signature qu'on a, on est rentré dans l'adoration. Premier commandement de Dieu. Et du coup, la foi peut être reçue. De paix, lorsqu'il devient totalement habituel, est la signature de la grâce chrétienne, de la grâce de Jésus. Marie est restée en paix. Sans effort, mais nous avons tous ce signe. Qui est une lumière, hein, on peut dire, habituelle, c'est-à-dire un pli normal, une seconde nature. C'est une seconde nature, c'est Dieu qui vit en nous. Et notre humanité ne vit plus tellement. C'est Dieu vivant qui vit en nous dans sa lumière. Et c'est une seconde nature. Ça, c'est la finalité d'un être humain. Dieu a créé l'homme, l'enfant de l'homme, pour la foi accomplie, finale. C'est la finalité. Si quelqu'un est athée, n'a pas la foi, enfin, la foi, je veux dire, accomplie, pas la foi qui commence, hein. Pas la foi charismatique, pas la foi des débutants, vous voyez ce que je veux dire. C'est bien qu'il y ait la foi pour s'exciter un petit peu, à quitter le monde, à quitter notre vie terrestre, à quitter nos caprices. Voilà. À quitter les péchés capitaux, quoi, les péchés de l'envie, hein, caprice spirituel personnel, etc. Bon, tout ce qu'on sait, quoi. L'habitude de ça, à un moment donné, la foi accomplie, la foi terminale, la foi finale, la vie divine, lumineuse, celle qui s'engloutit et disparaît dans la lumen gloriae, sans voir la lumen gloriae. Alors à ce moment-là, on rentre dans la finalité humaine, qui est une finalité naturelle, et bizarrement, il n'y a rien de naturel humainement dans cette finalité. puisque c'est la nature divine elle-même. Il resplendit. Et c'est pour ça que il y a dans la révélation, quoi, une révélation, que si on est créé par le Père, quand le Verbe nous illumine, c'est librement qu'on peut accéder à cette finalité. Elle nous est donnée comme une semence qu'on peut ouvrir, et c'est ça notre liberté, pour venir faire pousser dedans nous et faire disparaître tout ce qui n'y est pas, la vie divine de Dieu. La disparition, c'est extraordinaire quand il n'y a plus aucune susceptibilité. C'est extraordinaire. C'est le texte que tu as lu. Magnifique. Vous avez des vêtements qui ne vous réchauffent pas. Le salarié reçoit son salaire dans une bourse trouée. C'est pas ridicule, ça? C'est ridicule. Un homme qui n'est pas un saint sur la terre, c'est ridicule. C'est ridicule. Et puis en plus, c'est pas intéressant. Comme disait mon professeur d'économie, c'est pas juteux. Évidemment, t'arrives pour présenter ton salaire, tu vois, et la bourse est trouée. Ça, je trouve ça trop fort. C'est ça. Quand on va à Sainte-Montaine, on remplit nos paniers. On remplit nos paniers d'osier, on les remplit d'eau. Et les molécules d'eau se soudent avec les croisements de hadrons les uns les autres, et le panier d'osier est devenu imperméable. Et en fait, le véritable panier, c'est l'eau divine qui se soude comme ça, dans les croisements de hadrons. C'est ça le miracle de Sainte-Montaine. J'espère qu'on ira aujourd'hui à Sainte-Montaine. Facebook, hein. On va voir si bon Dieu nous permet d'y aller. C'est la Providence qui en décidera. Donc le Maurice Sintel, c'est vraiment un prêtre merveilleux. Les prêtres, vous savez, sont des gens merveilleux. C'est quand même le sacrement, hein, de Jésus. Présence réelle. Ce sont des personnes qui ont dit oui. Je suis convaincu, moi, que les prêtres disent oui avant la naissance. Je suivrai assez facilement la leçon du père Thomas. Thomas Philippe. Qui regarde ce que c'est que la conscience d'amour lorsqu'on est dans la pleine finalité dès le départ. C'est un des plus grands maîtres de la doctrine infaillible de l'Église. Il s'est occupé toute sa vie d'handicapés mentaux de Mongolia. Mais c'était pas ça, c'était un peu comme Saint-Vincent de Paul. C'est une vie contemplative, sacerdotale, la plus étonnante que la Terre ait jamais portée. Et en même temps, il était tout le temps avec ses enfants, quoi. Une vie humaine méprisée, quoi, hein, parce que si on voit qu'il y a un risque, je dis seulement un risque, 1% de risque, on supprime l'enfant. Ces enfants-là, ce sont des petites merveilles. Je vous ai raconté, je crois, une fois. Pour recevoir leur salaire, ils n'ont pas des bouses trouées, hein. Ils vivent de Dieu. Je vous ai raconté une fois, c'était à Montmorin, une des sœurs est revenue. Elle était partie pendant 3 semaines parce qu'il y avait l'enfant de sa sœur qui était trisomique, qui n'avait jamais parlé de sa vie, qui était en train d'agoniser à 14 ans à l'hôpital. Elle disait, c'était dur, une vie de souffrance quand même, mais jamais prononcé un mot, disons, intelligible. Mais elle était très intelligente. Donc quand elle est revenue, elle nous a raconté comment elle est morte. Vous vous rappelez, je vous ai raconté ça, non? Jamais? Oui. Et tu vois, il y avait quand même du personnel hospitalier, évidemment la maman, j'étais là, 2-3 autres personnes. Et la petite s'est redressée sur son oreiller, comme ça. Elle a regardé tout le monde. Ça regardait. Elle a souri. Et elle a commencé à parler. La seule fois où elle a parlé de toute sa vie. Vous nous regardez, non? En nous plaignant, en nous méprisant un peu, mais vous, vous êtes là, il y a de l'amour, alléluia, mais sinon, mais nous ne sommes pas à plaindre. À l'intérieur de nous, il y a l'amour de Dieu. Et elle aura commencé à leur parler de la très sainte Trinité. Et donc, toute ma vie, la très sainte Trinité fait que ma vie est une joie, une fécondité pacifique, je sais pas. Elle a parlé de la très sainte Trinité. Et puis quand on vous regarde, vous, on voit que vous êtes sans intelligence, que vous ne comprenez rien de Dieu. Et on vous plaint beaucoup. C'est vrai, ces Mongoliens, ils sont extraordinaires. Quand ils voient que s'ils rencontrent le père Thomas ou le père Chardon, ils se platissent, ils voient tout de suite la très sainte Trinité qui surabonde dans ces 3 fécondités éternelles, à travers la chair et le sang, pour une assomption immédiate, et pourtant sans que la mort ne puisse apparaître, alors que. Et voilà, ils s'enfoncent comme s'ils s'enfoncent, c'est impressionnant d'ailleurs de voir ces enfants s'enfoncer à l'intérieur de votre cœur. Pour s'approuver de la lumière de la très sainte Trinité, quoi. Ce qu'aucun autre enfant dit normal ne fait jamais. Parce que les enfants dits normaux sont sans intelligence. Ils n'ont pas la paix. Souvent, ils n'ont pas la paix, c'est vrai. Ils vont reconnaître. Et puis, elle a parlé comme ça pendant un bon quart d'heure. Alors, dit, nous, on est dans la joie parce que on n'arrête pas et de plus en plus, et sans arrêt de plus en plus, quoi. C'est comme s'ils avaient un chromosome de plus, hein, qui fait le lien, si je puis dire, entre leur oui originaire et leur inscription dans le livre de la vie. C'est comme si le flux et le reflux se faisaient à l'intérieur des personnes divines en Jésus. Et effectivement, c'est vrai, biologiquement, hein, trisomique, c'est pas des chromosomes en moins, c'est des chromosomes en plus, c'est un fait. Bon, alors, je vous prie de m'excuser, c'est une très très mauvaise introduction. Qu'est-ce que dit le père Maurice Ravel ? Hérode était pas le roi des Juifs. Si, il était le roi. Les rois, le roi des Juifs, roi en Israël. Comme vous le savez, il n'était même pas juif, alors il ne risque pas d'être roi des Juifs. Au sens propre, au sens divin, au sens spirituel, au sens humain même. Il était même pas juif, il était iduméen. On l'a vu dans les textes qu'on a lus depuis 3 ou 4 jours, que le temple de Jérusalem, s'il a été reconstruit, c'est à cause des rois païens, d'Axerxès, Darius, Cyrus. Déjà au départ, Nabucodonosor avait donné les consignes. 2 siècles avant, 2 siècles et demi avant. C'est à cause du prophète Daniel. C'est vrai. Mais c'était des rois païens, c'était pas des monarques, c'était des royaumes, des monarques, des rois. Des pontifes, c'était les pontifes du monde, c'était eux, les Illuminati de l'époque, c'était eux. C'était eux, le gouvernement mondial, c'était Nabucodonosor. Puis à l'époque de la construction du temple, c'était Darius, c'était Cyrus. Pontife suprême du monde. Et Hérode a fait reconstruire aussi le temple. C'était son père, hein, parce que le père de celui-ci. C'était des Iduméens. Derrière lui, en dessous, caché à l'intérieur, si je puis dire, de la nature humaine. Et bien Saint-Joseph était là, le véritable roi d'Israël, légitime, qui avait toute autorité sur toutes choses en Israël, c'est-à-dire sur toute vie spirituelle, toute vie religieuse. Parce qu'un roi est un père, il y a une fécondité sur toutes les âmes dont il a la charge, sur toute l'économie même, sur les éléments. Saint-Joseph avait autorité sur tout ça. C'est le véritable roi d'Israël. Sur les démons, sur le mal. Mais il était tellement humain, Saint-Joseph, et comme roi tellement divin, que dès le départ, intérieurement, il était comme englouti, absorbé, et qui se réjouissait, quoi, de l'intelligence du royaume accompli de l'humanité tout entière. Et c'est de cette manière-là, d'ailleurs, que il a réalisé la fameuse révolution, si je puis dire, du gouvernement du monde. Le gouvernement divin a transformé, transsubstancié la providence divine dans Saint-Joseph. Et une transsubstantiation du gouvernement divin avec Saint-Joseph, c'était à l'époque d'Hérode. Hérode était évidemment bien incapable d'avoir cette fécondité. Et donc il voulait voir Jésus. Saint-Joseph était un homme normal parce que il était lié dès son origine, si je puis dire, à la finalité naturelle d'un homme normal accompli, et entièrement accompli, hein, dans la présence divine, envahissante et surabondante dans la nature humaine tout entière à partir de lui. Et capax assimilationniste, capax être entièrement assumé. Et c'est un fait qu'il a été assumé. En spirant de l'intérieur, la substance même de la nature divine du Père, de la première personne de la très sainte Trinité. Il a opéré cette révolution qui a permis que la nature humaine, sa forme principale, sa forme de lumière vivante principale, est devenue l'Immaculée Conception. C'est venu de Saint-Joseph, ça. C'est Mamorine qui me l'a expliqué. Je trouve ça très bien. Mamorine avait un côté mongolien, vous savez. Le royaume de l'homme est un royaume de paix, d'allégresse éternelle et de lumière. Et nous avons été créés par Dieu avec une matière très particulière qui nous rend capables d'être entièrement envahis et source de cet royaume de joie éternelle, de paix divine et de lumière. Parce que Dieu est lumière. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes dit, quand vous voyez un homme qui n'est pas, qui s'excite, qui avec tous ces mouvements du mauvais à l'intérieur de lui, ses inquiétudes, ses trucs, ses machins, ses... C'est jugement téméraire, c'est... ces excitations inutiles, il reçoit son salaire dans une bourse trouée. Je trouve ça, cette expression est vraiment géniale, ça. Je vais la retenir celle-là. Tiens, voilà ton salaire, tiens, oui. Merci beaucoup, au revoir. Un homme qui vit sans Dieu sur la terre, je parle continuellement, c'est un homme qui ne vit pas continuellement à l'intérieur de Dieu sur la terre, c'est ridicule, c'est une bourse trouée, c'est Dieu qui vient, et c'est toujours une bourse vide. Et c'est l'enfer qui récupère le pognon. C'est ça. Connaissez le pas, cette parole, il faut la connaître par cœur, puis sans rendre compte, en faire aussi l'expérience dans notre vie à nous, ne serait-ce qu'en espérance. Incipiens dixit in corde suo non est Deus. Celui qui dit que Dieu n'existe pas est insipide. Être athée, c'est pas humain. Être dans le péché, c'est inhumain. Et surtout, c'est ridicule. On le sait bien. Regardez les moments dans notre vie où c'est pas Dieu qui surabonde complètement en nous. Tous ces moments-là n'ont aucun intérêt. Alors on se bat contre je sais pas quoi. On se bat contre nous-mêmes en fait, contre notre insipidité. trouve ça très bien. Incipiat, c'est incipiat. C'est beau de savoir que Dieu nous a créés. Il a créé, par exemple, je ne sais pas moi, les oiseaux. Il a créé les animaux. Il n'a pas créé les animaux pour qu'ils trouvent leur finalité dans la vie divine. Dieu n'a pas créé la matière pour se terminer dans la vie divine. Dieu n'a pas créé... C'est vrai. Même la nature angélique, la nature angélique est une nature spirituellement parfaitement pure. Et c'est sûr qu'ils sont finalisés quelque part en eux-mêmes. Ça a été le piège de Satan. Parce que la nature spirituelle créée d'un monde, d'un ange, est tellement pure. Il n'y a tellement aucune ombre dans la vie spirituelle de lumière d'un ange qu'il peut être à lui-même sa propre finalité sans que ce soit une offense pour Dieu. Mais pour l'homme, c'est la seule créature qui est créée et qui est naturellement finalisée, qui ne peut respirer que dans l'union totale avec Dieu et surabondante. Et c'est Dieu qui surabonde éternellement dans le temps de notre humanité sur la terre. C'est un souffle. Bon. Excusez-moi, Père Maurice Zendel. Alors, Hérode disait, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Cette humanité qui court au milieu de mon royaume. Qui est cet homme? L'humanité de Jésus. Premier des sacrements. L'humanité de Jésus est la Bible de la nature humaine. Elle réalise ce qu'elle signifie comme signe de lumière. L'humanité de Jésus, dans tout ce qu'elle est, dans son âme humaine, dans sa sensibilité, dans son intelligence humaine, dans sa volonté humaine, dans son obéissance humaine, dans sa souffrance humaine, dans tout ce qu'elle est humainement, ne manifeste jamais ce qu'elle est elle-même. Elle ne manifeste que Dieu dans la lumière. Ainsi, l'humanité de Jésus est un signe vivant et efficace de ce qu'elle est et ce pourquoi elle a été créée. Et c'est l'humanité de Jésus qui est le premier sacrement de la lumière. Dans l'humanité de Jésus, Dieu est personnellement exprimé. Dans la lumière, Dieu se communique personnellement en cette humanité et son moi. Le fond et toutes les surabondances de cette humanité, c'est ce moi, ce je suis, cette existence divine intérieure du divin, ce moi qui est tout amour éternel. Ce moi qui est toute lumière. Ce moi qui est éternité, présente, visible, donnée. En pleine lumière d'une nature humaine. Qui est enfin ce qu'elle doit être et ce pourquoi elle a été créée. c'est moi qui suis éternellement donné. C'est le moi du Verbe dans le sein du Père, dans le saint amour éternel du Père. Le je suis de Dieu lui-même. Ce je suis incapable de rien posséder, puisqu'en Dieu, quand je dis je suis un autre que moi-même. Puisque dans la personne, c'est une autre personne en Dieu qui s'est communiqué, disparu, manifeste l'autre comme don de soi et charité éternelle. Et c'est cela la lumière. En Jésus, nous avons justement cette donation infinie de Dieu éternel. Et elle est signifiée par son humanité. Car l'humanité est faite pour cela. Elle est signifiée, accomplie, communiquée dans une humanité qui n'a rien, qui ne se possède pas elle-même en son humanité elle-même, et qui ne peut rien retenir pour soi de son humanité elle-même, et qui est encore une fois l'hostie vivante et le vivant sacrement, au Dieu personnel. Se manifeste, rayonne, surabonde, s'exprime, se communique. Et c'est à cette rencontre avec le Dieu vivant que Jésus nous appelle en nous créant dans la nature humaine. De sorte que Jésus est une révélation de la nature humaine que nous sommes. Autant, sinon davantage, que la révélation de nature divine, qu'elle est en son accomplissement continuel. Car finalement, Dieu nous appelle dans la nature humaine de Jésus. Finalement, l'incarnation, le sens même de l'incarnation, c'est de recouper, de rassembler toute l'humanité, tous les temps qui ont été créés pour l'humanité, tous les instants qui ont été créés dans la lumière pour l'humanité, tout ce qui a été créé dans le monde de la création pour l'humanité, tout l'univers dans la lumière et la présence de la personne divine. La nature humaine a été créée et pour resplendir en cette nature divine du Verbe de Dieu lui-même. Ouais, c'est du bon. Et Dieu est lumière, nous sommes lumière. Et il y a quelque chose qui est créé par Dieu, on pourrait dire, bien sûr, Dieu est tellement autre, tellement plus grand. Au départ, oui. En Jésus, il n'y a aucune différence. La nature humaine est tellement dans l'union avec Dieu, tellement semblable, qu'il n'y a plus personne humaine en Jésus. C'est Dieu en personne. Et la nature humaine a des lois de, comment dire, de fabrication. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un beau joli mot. Hein. Il y a des lois naturelles, des lois de fonctionnement. C'est pas un joli mot non plus, mais tout en nous, la moindre chose en nous, est faite. Pour récupérer, recueillir, rassembler, unifier l'humanité tout entière dans la disparition de sa propre nature en sa finalité qui est Dieu le Verbe, qui est lumière. Il y en a la signification de la matière et du corps spirituel, Zamorizendel, toujours très. Non. notre corps vivant, alors on a aussi envie du corps, du cœur et de la paix supérieure qui est toujours sur nous. De manière qui est coupée, mais complètement, hein, de tous les fonctionnements naturels de notre vie humaine, à ce moment-là, on devient un truc pas possible, une bourse trouée. Et tous les trésors que Dieu veut y mettre sont pour le démon. Tandis que quand ta bourse est bien étanche, grâce à Sainte Montaigne, tout ce qui existe, quand tu ouvres les bras, c'est un recueillement à l'intérieur de Dieu et une surabondance pour la vie éternelle. Le pauvre roi Hérode dit, mais c'est sûr, c'est parce qu'il a trouvé rigolo le froufroute, le froufroutin du fessier de la petite de sa maîtresse. Ah, il a trouvé ça rigolo. À cause de ça, il a décapité Jean le Baptiseur. C'est pas très glorieux. Moi je voudrais mourir pour une noble cause, n'est-ce pas, voilà, pour le froufrouta d'une petite adolescente. Waouh, je trouve que Saint Jean-Baptiste aurait mérité une mort plus glorieuse. Voilà. Il est mort à cause de la stupidité, hein, de l'homme. Que l'homme soit sensible. Ce monde, hein, des sept péchés capitaux. C'est sa mort. Tu es susceptible, tu es démoniaque. Tu es envieux, tu es démoniaque. Tu es sensible à la sexualité animale, tu es démoniaque. Tu es capricieux. C'est toi qui dois passer devant. C'est ce que tu reçois qui compte. Tu es démoniaque. Enfin, je peux passer les sept péchés capitaux comme ça. Pour Jean-Baptiste, il n'y a rien. Et il meurt parce que l'humanité est démoniaque. L'humanité est stupide, l'humanité est insipide. L'humanité est complètement en dehors de sa nature humaine, complètement en dehors, complètement. En plein Israël, vous vous rendez compte. Mais la nature humaine de Jésus, elle, est un sacrement. Et ce qu'il y a de beau, moi je trouve, c'est que elle a émané en raison d'une cause méritoire comme d'une source. De la sainteté du roi d'Israël. Il a fallu attendre qu'il y ait un être humain, un homme, qui soit vraiment fils de Dieu. C'est Saint Joseph. Alors ça a été possible que la nature humaine puisse être créée telle qu'elle doit être, dans sa finalité dès le départ. C'est l'Immaculée Conception. Et du coup, la cause méritoire du Fils de Dieu dans Saint Joseph a permis qu'il y ait l'incarnation du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est nous. Si on est marqué du sceau de l'Apocalypse, sur le front, notre visage intérieur, mais extérieur aussi. Parce que le visage de la Sainte Face de l'homme, du Fils de l'homme venant sur les nez du ciel, marqué du sceau du Saint-Esprit, inspiration passive, agréée. Cette Sainte Face de l'homme est parfaitement adaptée à la Lumen Gloriae, la lumière de gloire. La lumière de gloire, c'est ce qui permet, face à face, entre les deux personnes divines, de resplendir l'un dans l'autre et de produire une extase mutuelle. Un ravissement de lumière. Et on a du coup l'explication de la signification de la matière. Jésus, en étant le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, transsubstantie, fait une révolution copernicienne, si je puis dire ça, du gouvernement divin sur la forme lumineuse intérieure véritable de la nature humaine. La nature humaine a changé. Elle n'a pas changé, enfin, oui, elle a changé deux fois avec Adam et avec la Trinité. D'humanité parfaite, Marie, Jésus, Joseph. Il y a une révolution, vraiment, de la nature elle-même, une reprise, mais sur un plan complètement surnaturel et divin, de la nature humaine dans ses fonctionnements, si je puis dire, de lumière, d'amour, et de sainteté. Pendant une demi-heure, cette vision-là sera sous nos yeux et elle va, pour ainsi dire, palpiter à l'intérieur de toutes les cellules de notre chair, de notre sang. Au jour d'ouverture du cinquième sceau, c'est-à-dire dans pas longtemps. Mais il faut faire très attention. Jean-Baptiste a été décapité. Il est, Élie le prophète, sera aussi décapité. Et ils sont tous les deux, avec Marie et Joseph, les quatre vents dans notre univers qui soufflent sur nous cette lumière de notre nature véritable. À titre de préparation. Il y a une préparation à faire. Et ceux qui ne sont pas préparés en vivant dans une vie irréprochable, immaculée, véritablement virginale, pacifiée, joyeuse, totalement abandonnée dans l'accueil de tous les trésors de l'union parfaite avec Dieu, de la fin de la Jérusalem spirituelle, avec le parfum intérieur des mérites de Joseph, enfant parfumant la Jérusalem spirituelle terminale de tous les temps. Si je ne recueille pas ça à titre de préparation, eh bien, je ne pourrais pas vivre humainement et divinement de la plénitude du don que cette demi-heure va ouvrir pour que notre humanité soit à jamais. Ce ne sera pas en plénitude. Et j'allais dire, ce sera vraiment, vraiment dommage. Bon, ça ne fait rien. Et le roi d'Israël est là, il y en a au moins un sur 7 milliards qui s'y prépare, mais non. Au moins un, c'est quand même réconfortant de savoir qu'il y en a un. On sait bien que c'est pas nous, puisque on est capricieux, susceptibles, On a peur des jugements qui nous paraissent être un jugement suprême venant directement de Dieu. On va voir ce que c'est. Des gens qui estiment avoir le sceptre du gouvernement divin pour les derniers temps. J'en ai vu beaucoup, vous savez. Ils en sont convaincus. Il y a des miracles, des guérisons, des étonnants pour leur confirmer que c'est vraiment eux qui ont le sceptre du gouvernement. Et, attention, ne dites pas trop vite. C'est parce que nous sommes poussière et cendre qu'on peut aimer le roi. En tant que poussière et cendre, d'accord, englouti, perdu, définitivement, éperdument, anéanti, n'entendant plus rien, poussière et cendre, on se laisse recueillir comme un souffle de rien du tout, à l'intérieur de l'amour solide, incarné, du roi, de celui qui se prépare à l'ouverture des seaux qui font faire émaner la Jérusalem spirituelle véritable dans le parfum de Joseph enfant pour l'assomption de toutes les conceptions et l'invasion de l'Immaculée Conception en toutes les conceptions humaines pour une nouvelle révolution de la providence de Dieu. Le temps n'aura plus la même mesure. Eh oui, l'intérieur du temps, on pourra y pénétrer. Parce que là, aujourd'hui, quand tu es dans le péché, tu comptes les minutes où les gens se méprisent. Ça fait 10 ans que je suis méprisé, méconnu. Alors je suis le roi. Je suis le grand prophète du monde d'aujourd'hui. Et bon Dieu permet que ses disciples, ses membres vivants, de Jésus vivant sur la terre, soient des rois parce que ils sont anéantis, parce qu'ils ne sont rien, parce que ce sont des bras cassés, parce que c'est ça qui est extraordinaire en fait. Vous voyez, quand on fait la prière d'autorité, vous avez vu cette nuit, on a fait la prière d'autorité, vous avez vu la paix qu'il y avait. Enfin, j'ai pas de sentir, même si on n'avait pas senti. On n'a pas l'habitude d'une paix inouïe et qui nous fait sortir complètement des turpitudes, quoi, des choses inutiles, des doutes, des inquiétudes. On n'y pense même pas, évidemment. Mais lorsqu'on fait cette prière d'autorité, on le dit bien, nous recevons la couronne de l'humilité substantielle. La couronne du gouvernement du monde, c'est la couronne de l'humilité substantielle. C'est pas la couronne de celui qui a tous les pouvoirs pour dire aux démons, attends, viens ici, approche-toi, paf, coupe-tu dans la narine. C'est l'humilité substantielle. Saint Joseph, c'était le juste substantiel. To dikaios on, 19e verset de l'Évangile. Et le roi, c'est l'humilité substantielle. C'est à cause de son humilité substantielle que du coup, c'est Dieu qui peut gouverner le monde. Et nous recevons la couronne, oui, bien sûr, du gouvernement du monde, dans ce fait que nous sommes poussière et cendre. Et du coup, nous pouvons, Dieu, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec ses élus, Marie, Joseph, Jean, tout ça, enfin bref, et tous les enfants, marqués du sceau du Saint-Esprit, inspiration passive d'amour à un créé éternel à travers eux, prennent autorité à travers ceux qui sont assumés en leur humilité substantielle dans ceux qui sont dans l'humilité substantielle incréée de Dieu. Parce que Dieu est lumière et l'homme aussi est lumière. Voilà. Donc je vous l'ai déjà dit, je crois. Si un petit. Petite culture générale, disons. Au moins ça. Celle qui nous vient de l'Ancien Testament. C'est que le Fils de Dieu, c'est Joseph. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. De ça, j'espère. Celui qui pousse la grâce jusqu'à son accomplissement, son débordement, jusque dans la nature humaine tout entière et jusqu'à la fin du monde, c'est un fils de Dieu, c'est Joseph. C'est une nature humaine accomplie par la foi. Et quand les Juifs parlent du fils de l'homme, c'est exactement le contraire, vous voyez, les anges qui montent et qui descendent. C'est Dieu qui est pleinement lui-même dans cette nature humaine accomplie de Saint-Joseph et Saint-Jésus. Et quand on dit Jésus est le Fils de l'homme, pour un juif, ça veut dire que Jésus est Dieu. Vous savez, le langage de la Bible, le langage d'une dans le chinois, c'est pas la même chose que le grec. Le grec, c'est pas la même chose que le bororo. Hein. Eh bien, chez les Juifs, quand tu dis fils de l'homme, ça désigne Dieu lui-même. Parce qu'il a créé l'homme. À son image et à sa ressemblance. Quand il crée l'homme à son image, sa ressemblance, il est entièrement dedans. Donc le Fils de l'homme, c'est Dieu. Le Messie est le Fils de l'homme. Pour ça, le Sanhédrin, il a déchiré son manteau à quel moment? Quand Jésus a dit, je suis le Fils de l'homme. Dans sur les nuées du ciel. Il se fait Dieu. Alors il déchire son manteau. Il a blasphémé. Et Hérode dit, qui est cet homme? Un petit peu comme Isaac dit à Abraham, où est l'agneau? Il n'y a pas beaucoup d'interrogations dans la Bible. Qui est cet homme? Où est l'agneau? Et dans les trois derniers sauts de l'Apocalypse, c'est dans le Fils de l'homme qui vient resplendir dans le baiser, véritable terminal d'amour en nous, dans les noces de l'agneau, que Dieu est agneau. Vous voyez, quand on dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on dit Gloria, c'est-à-dire pour émouvoir et ébranler le monde angélique, quand on dit Gloria, Si un jour vous voulez ébranler et émouvoir le monde angélique, vous dites le Gloria. Gloria in excelsis Deo. Comme ça, tu ne regardes plus ton nombril en disant je suis le roi de Dieu. J'espère qu'on va me respecter. Non, si on ne te respecte pas, tant mieux. J'imagine Jean-Baptiste au fond de sa cuve, là, quand on vient me décapiter, mais enfin, on ne me respecte pas, là. Pas du tout. Ah. J'ai perdu le fil, du coup. Qu'est-ce que Jean-Baptiste? Ah, le Gloria, quand vous dites le Gloria, oui. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu. C'est Dieu qui est Agneau de Dieu. C'est pas l'inverse. Quand on dit à la messe, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, quand vous dites au Gloria, c'est Dieu, Agneau de Dieu. Dieu, Agneau de Dieu. Donne-nous la paix. C'est Dieu, Agneau. Où est l'agneau? Qui est cet homme? Je suis la lumière du monde. Dieu est la lumière dans l'agneau. Et l'agneau est un sacrement, comme le dit le Père, du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Dieu. Fait qu'il n'y a plus qu'à personne divine, quoi. Hein? Dieu agneau dans le Gloria. Ça met en branle toutes les puissances angéliques. C'est pour ça qu'on dit que quand vous dites le Gloria, in excelsis Deo, la gloire à Dieu au plus haut des cieux, vous convoquez le monde angélique. Parce qu'il est obligé de se rétracter vers la nature humaine. Vous voyez, la finalité du monde angélique, ce n'est pas dans son mode de fonctionnement spirituel d'aller en Dieu. Il le faisait hein, avant la révolte. Sa finalité naturelle, c'est d'aller vers l'humanité. C'est de s'abaisser et de regarder le spectacle de Dieu, Agneau de Dieu. Et devant ce spectacle de la passion intérieure de Dieu, comme Agneau de Dieu, ça fait une révolution complète d'amour à l'intérieur de Dieu pour qu'il rentre dans l'humilité substantielle de Dieu. Parce que de soi, ils ne sont pas, au départ de leur création, brûlés par l'aspiration à créer la procession d'amour, ni active, ni passive. Et donc la finalité naturelle, ils sont créés, si je puis dire, dans leur vastitude et leur perfection, pour se tourner vers Dieu, Agneau de Dieu, vers l'humanité, le Fils de l'homme. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a quelques-uns qui sont révoltés en disant, mais tout de même, tout ce que je reçois vient de Dieu, et c'est vrai en plus. Ah, à cause de ça, ils se mettent en dehors du corps mystique de Jésus, de l'Église, de la communauté, de la famille, de la nature humaine entière. y a les anges qui veulent pas de ça, alors ils deviennent des anges condamnateurs. Et puis il y a les anges qui sont émus à la passion de Jésus. Et la vision de cette passion de Dieu, agneau de Dieu, ça produit un amour qui est un amour qui vient de, du roi d'Israël, de Joseph, dans l'Immaculée Conception, et qui fait émaner le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Un Dieu comme sacrement. Ah, ça, c'est, vous avez toute la doctrine du Père Maurice Handel. C'est la doctrine catholique, en fait. On voit tout de suite qu'elle est contemplative. Que c'est la vérité, quoi. Il a eu une très grande influence, vous savez, le Père Maurice Handel sur le Concile Vatican II. Nous, on est ici, on est ici, et on est content, puisque Dieu nous y a mis, on est content. On est très heureux d'être là, comme Jean-Baptiste dans sa prison. On est très content, puisque de toute façon, comme le Mongolien dans son, dans sa, dans cet enfermement du mépris universel, on est heureux d'être là. On est heureux, très très heureux, très heureux, parce que du coup on peut se lever à l'intérieur et on peut rentrer dans ce mystère de préparation. Vous vous rendez compte, cet abandon, on s'abandonne dans une bourse qui n'est pas trouée, hein, c'est la nature humaine de Jésus, le cœur de Jésus, Marie, Joseph, qui s'ouvre vers le haut, une bourse qui n'est pas trouée vers le bas. On est recueilli comme ça dans les trois sceaux de l'Apocalypse, de la Jérusalem spirituelle, Jésus, Marie, Joseph, avec tous, tous. Alléluia. Alors on va célébrer cette messe parce que c'est... c'est pour nous une nécessité, hein, de donner l'autorisation à Jésus Agneau, à Dieu, de prendre toute la place et de nous absorber, faire qu'on disparaisse avec toutes nos bêtises, et qu'on ne devienne plus insipide, qu'on arrête. Et il faut qu'on passe par la messe, parce que la mission invisible des personnes divines dans notre âme nettoie tout et nous place dans l'union d'abandon, c'est-à-dire dans le don, qui est oblige la responsabilité éternelle de Dieu. Et elle nous place donc, pour ainsi dire, au cœur de tout ce qui existe dans la matière spirituelle, dans la nature humaine entière. Et donc elle peut être le point, si je puis dire, d'amour du monde angélique lui-même. Et le calice du recueillement imperméable de la vie éternelle de Dieu dans cette demi-heure où se réalise la transformation, la révolution transformante. Cette œuvre qui nous a été confiée et qui est confiée surtout à la Jérusalem spirituelle accompli et terminal. Et donc quand cette demi-heure va s'épanouir, que nous soyons déjà habitués, si je puis dire, pour pouvoir bondir et marcher de manière intrépide sans s'arrêter à partir de ce moment-là, dans la nouvelle forme lumineuse et vivante du temps. Parce que ce moment-là, ce ne sera plus le temps de la terre, ce sera le temps de l'homme et le temps du Fils de l'homme. C'est pour ça qu'on dit qu'on a autorité, et bien on recueille quelque part cette possibilité d'être présent à l'intimité profonde, lumineuse, vivante de chaque instant présent. Quand on est dans l'intimité lumineuse, vivante comme dans une sève, de chaque instant présent, on est sûr que notre humanité est normale. s'est même pas rendu compte qu'il était le sacrement de l'humanité déçue, parce qu'il était sensible au froufrou d'une adolescente. Petit froufrou. Un tissu un peu transparent qui virevoltait. Le ridicule ne tue pas. Alors, il faut la messe. Pourquoi ? Parce que la messe, c'est la mission invisible des personnes divines dans notre chair, dans notre âme et dans notre temps. Et l'instant présent, la palpitation de la matière en nous, nous établit à l'intérieur, possiblement, de l'accomplissement final dans la Jérusalem spirituelle, avec tous ses parfums. C'est dans cette présence de Saint Joseph, glorifié, ressuscité, spontanéité, complètement assimilé à l'inspiration de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire des personnes de la très sainte Trinité. C'est dans lui que s'opère en nous la transformation rédemptrice et la finalité de notre existence, d'une sacrée pour vivre des trois derniers sauts de l'Apocalypse. C'est vrai, les gens cherchent toujours une signification à leur existence, à leur vie. Pourquoi j'ai été créé, pourquoi? Est-ce qu'il faut que je me marie? Est-ce qu'il faut que je sois bonne sœur? Est-ce qu'il faut que je sois prête? Quelle est ma vocation? Etc. Mais enfin, c'est pas ça. Tu te vis dans l'union à Dieu et tu verras bien à la fin ce que ça donne. Tu te retrouves marié avec beaucoup d'enfants ou tu te retrouves prêtre. Très bien, méprisé de tous, juste à titre. Bon, parfait, pas grave, on s'en fiche de ça, t'as pas de vocation terrestre, t'as pas une mission. Non, non, c'est la mission invisible des personnes divines qui compte. Les deux mains, la mission invisible du Verbe de Dieu est posée, la mission du Saint-Esprit. Je les plonge, je suis capable de plonger mes deux mains dans le sein des saints de celui qui n'est jamais envoyé. Et à ce moment-là, resplendit en moi l'instant présent lumineux qui permet de m'épanouir, respirer les odeurs. Et c'est des odeurs nourrissantes, c'est des parfums nourrissants. De ce qui a émané de l'humanité de Joseph au moment de son assomption. Pour la création de l'Immaculée Conception. Hein. Ça a tellement débordé dans l'heure de la résurrection de la fin du monde que c'est revenu jusqu'à Zacharie et ça a permis la conception de Jean-Baptiste. Impressionnant. Le plus grand des enfants de la femme. Père Emmanuel qui disait Jean-Baptiste, c'est un vertige d'humilité. Le grand enfant de la femme, c'est celui qui prépare. Il est dans une grâce de préparation, comme Marie et Joseph, pareil. Et nous, on est dans cette grâce de préparation. Et donc, on est en phase, on est en harmonie, on est en symbiose, on est en affinité substantielle, pour dire ça, hein. Transsubstancié avec le roi. Il y en a au moins un. C'est beau ça, de savoir qu'on est contemporain et on l'aime. C'est pour ça que j'aime beaucoup la prière d'autorité, vous savez, puisque la troisième prière d'autorité, c'est pour le roi. C'est pour qu'on soit englouti, disparu dans le cœur du roi. Dans l'amour du roi, dans l'humilité substantielle du roi, et que cette humilité ne cesse d'augmenter sur une mission invisible des personnes divines dans son âme. Et nous, du coup, on est portés avec lui dans cette charité qui va sauver la qui va faire la mutation de la nature humaine tout entière dans les trois derniers sauts d'Apocalypse, arrachée au pouvoir du ricaneur, du condamnateur. Du capricieux, enfin de Lucifer, quoi. Alors on est là pour ça, vous voyez, c'est beau, ce tritium que le Seigneur nous fait faire comme ça depuis 2005, depuis 12 ans maintenant. Ce tritium, trois fois chaque jour. Avec chacun sa signification de complémentarité. Cette navigation de la nature humaine vers son port terminal ces jours-ci, c'est vertigineux, quoi. Grâce à Dieu, on peut en prendre conscience un peu. Et on peut s'y laisser prendre. Sans s'écarter jamais. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Ça veut dire qu'on est plus pauvre que les autres. Alors du coup, on peut se lever et voler. L'instant vivifiant de cette ouverture d'une demi-heure, ce silence d'Apocalypse, c'est-à-dire ce silence divin venant investir l'instant présent dans la Sainte Famille, 30 minutes. Que nous ne soyons pas en dehors, voyez, on est là à cause de ça. Ici, là, en Sologne, au centre du royaume, du véritable Israël. Et on sait qu'on est là pour ça. On l'entrevoit, et très pauvrement. On ouvre très grand les bras dans les missions invisibles des personnes divines, du Saint-Esprit, de l'épousette dans notre âme, dans le Saint des Saints, de la paternité, d'amour éternel de Dieu le Père, qui est la signification profonde de notre corps humain, spirituel, vivant. Et on va attendre avec surprise l'avènement de Dieu. En même temps, l'agneau, en même temps, Dieu, lumière, et en même temps, le Fils de l'homme venant vers nous. Les trois en même temps. Cette surprise étonnante qui fait que notre oui qui le prépare va laisser la place transsubstantielle et transactuée à oui, qui est celui de la première et de la seconde résurrection, du oui des noces de l'agneau. C'est quand même extraordinaire quand vous pensez une chose comme ça. Mettez-vous à la place de l'Immaculée Conception. Je ne devrais pas dire ça, hein. Dites simplement, par la foi, je suis l'Immaculée Conception. L'Immaculée, d'un seul coup, avant, il n'y a rien du tout. Et d'un seul coup, l'instant après, elle existe. Dans le sein, à partir du poids ontologique, surnaturel, absolument parfait, de l'unité sponsale de ses parents. Dans ce nid-là, à partir de rien, elle n'est rien. Puis d'un seul coup, elle est toute l'Immaculée Conception. Et elle se voit parfaitement telle qu'elle est. Mettez-vous à sa place. Plénitude de grâce surnaturelle. Plénitude de grâce divine. Incréée dans le créé. Plénitude du Saint-Esprit. Plénitude de vie contemplative, plénitude de liberté humaine et divine en une seule hypostase, plénitude 9 mois avant la naissance. Mettez-vous à sa place. Cette grâce-là, elle ne va pas cesser d'augmenter. Et elle ne se regardera jamais parce que c'est une plénitude d'humilité substantielle. Et donc elle ne regardera que Dieu, et Dieu est infiniment assoiffé d'être l'Immaculée Conception dans toute la nature humaine. Elle accompagne Dieu donc. Eh bien, la Jérusalem spirituelle de l'Apocalypse, Saint Jean nous l'a dit, nous l'explique. C'est ce temps de l'Immaculée Conception, dans sa plénitude, dans toute dans la nature humaine tout entière, dans tous les êtres humains. C'est pour ça qu'on aime cette prière d'autorité aussi de l'agneau, hein, puisque on vient avec l'agneau, avec Dieu agneau, pénétrer chaque être humain. Jésus, Dieu, peut envahir comme agneau chaque être humain. Adam, Ève, Abel, tous les êtres humains, passés, présents et futurs. Et avec lui, nous pouvons venir habiter Jésus, nous lier à Jésus, agneau, Dieu agneau, et le suivre à l'intérieur de lui, puisqu'il est à l'intérieur de nous, et nous à l'intérieur de lui. Et cette circumcession, cet établissement de demeurance mutuelle, continuelle, qui fait que nous sommes dans une union d'abandon de lumière, fait que du coup Jésus, lui, peut passer, grâce à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire grâce à ceux qui ont l'humilité parfaite de la foi, il peut du coup revisiter chaque être humain dans chaque âme, et déposer ce que l'Immaculée Conception doit y déposer en complémentarité. Pour la glorification éternelle de Dieu. C'est beau ça, d'habiter. Pouvoir savoir que la lumière de Dieu agneau, et que nous unis comme ça à Jésus, nous pouvons habiter chaque âme humaine. Visiter, c'est Jésus qui visite. Mais nous, nous venons avec Jésus dans une union de complémentarité, dans la circumcession, dans la péricorèse surnaturelle de l'union transformante. Et nous venons avec lui dans la prière d'autorité pour descendre dans chaque être humain et y déposer la prière de Marie et de la nature humaine finale, terminale, accomplie, tout entière. Et du coup, effectivement, et une préparation de chacune de ces âmes au baptême de l'Apocalypse. Et si vous voulez trouver une mission, c'est celle-là. Toutes les autres missions sont totalement inutiles. Je parle d'aujourd'hui. C'est sympa, je trouve, de suivre comme ça l'enseignement du Saint-Père, celle du ciel, Et si abandonner avec gratitude, parce que plus on est pauvre, plus on peut s'y enfoncer, plus ça devient clair, plus ça devient limpide, plus il y a cette agilité extraordinaire à travers tous les temps, tous les lieux, cette subtilité extraordinaire qui fait qu'il n'y a plus jamais, pas le moins, regard sur notre mission personnelle. Mais la mission divine de l'agneau, la mission divine de la nature humaine tout entière, fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Hein? De savoir qu'on a été créé à cause de ça et pour ça, c'est notre finalité. C'est la finalité de la nature humaine, c'est ça, c'est beau ça, vous voyez, ça c'est pour moi, c'est tellement vrai en plus. C'est tellement évident. Et les gens qui vivent pas de ça, on les méprise pas, c'est pas ça. On n'a aucun mépris pour eux. C'est vrai que la conversation va pas loin. Ah oui, alors, le temps il est beau aujourd'hui, hein? Il fait un peu moins froid. Il fait un peu plus froid, peut-être qu'il va me voir, peut-être que si, peut-être que là. Oui, très bien. Vous savez pas ce qu'il a dit, à la télé. Peut-être qu'il y a une épidémie. Oh là là. Des conversations, vous savez. Moi, j'ai pas toujours été prêtre, hein. J'ai travaillé dans les bureaux. Fallait voir au niveau des conversations. Tandis que quand on est à la messe, c'est pas pareil. Hein. Et encore, la messe, c'est rien du tout, c'est une porte d'entrée, c'est pour qu'on s'y laisse absorber. Absorber, je dis bien absorber. Et placer ailleurs que. Placer dans l'oraison. Placer dans la transformation. Dans les trois derniers sauts de l'Apocalypse. Et ça, c'est pas rien, parce qu'on le palpe, ça, on le sent, ça, on le voit, ça. Cet océan de paix, cette allégresse. Cette indivisibilité d'amour. Dans la nature humaine tout entière, dans le parfum, Joseph. Alors, les missions invisibles reviennent après ça, n'est-ce pas? Et le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Faut que le cœur de Joseph et le nôtre sont un, parce qu'il est le sacrement de l'un, de la nature humaine en elle-même. C'est ça, Joseph. C'est lui le roi. Le Fils de Dieu. Et vous voyez, la différence que je dirais qu'il y a entre Saint-Joseph, Sainte-Immaculée Conception et la sainteté du Saint des Saints, du Fils de l'homme, de Dieu lui-même dans la nature humaine. Et le roi, c'est que le roi est un principe, que c'est que le roi est le recueillement dans l'humilité des trois ensemble, dans la disparition des trois au-delà de tout. Parce que le voile se déchire, il se déchire sous le poids de l'humilité parfaite de Dieu à travers la foi accomplie de la fin. Il faut beaucoup d'amour pour ça. La femme va mettre au monde un enfant. Un homme, ce ne sera pas une vierge immaculée, conception. Et le démon, en ce moment, est en arrêt devant la femme, sur le point d'enfanter cette sainteté, cet amour, cette charité, cette humilité substantielle-là. Il recueille l'unique amour Jésus-Marie-Joseph, qui en lui, dans son raison de son humilité, est prêt à se déchirer par les autres-là. Mais au-delà d'elle-même, dans le baiser du véritable amour, à l'intérieur de la sponsalité, d'inspiration incréée de Dieu. et se recueillir et recueillir toute chose de manière assumée, hein, à l'intérieur de la spontanéité d'éternité de Jésus-Marie et Joseph. C'est pour ça que vous avez la prière de Maximilien Maricol, que nous consacrons totalement à vous. Vous transsubstanciez en vous, transverbérez comme vous. Dans cette inspiration incrée de Dieu, de votre responsabilité d'éternité qui est vous. Ah, mais quand je suis là, voilà, la messe c'est fait pour ça, c'est faire un chemin pour m'y enfoncer, le percevoir, m'y réjouir, et être cette source par la foi méritoire de son engendrement dans le temps. C'est comme ça que je prépare l'avènement du royaume de Dieu. Nous sommes dans un mystère de préparation. Bon, je vous demande pardon si je vous ai un petit peu ennuyé. C'est du mal, je pardonne tout, mais je demande pardon pour tout et reçois le pardon pour avancer ensemble. C'est ensemble qu'on avance. C'est dur, hein? Soyez la nuit, tout ça, c'est trop. Ça va sans Paul, deux heures par jour de sommeil. Ça va sans Paul, 2 heures. Il ne faut pas dire que c'était facile pour lui. Hein? Alors, en fait, on y arrive. Hein? Ah, on y arrive.
Il a même dit un jour, j'ai mal à la tête, j'ai trop dormi.
C'est qui a dit ça?
Ça me semble pas.
Ah.
On aurait été sur une blague.
Ah, ça fait pas mal.
La rentrée de soirée, je suis train de tumeur. J'ai mal à la tête. Très dormi.
Ah ben c'est dit, hein. À chaque fois que nous avons une messe, n'oublions pas quand même aussi. C'est la messe du jour, donc c'est toutes les messes qui disent sur toute la face de la terre que nous avons fonction, sacerdoce royal, de rassembler dans une seule messe, 1 million de messes. Comme ça, si c'est une messe, n'oubliez pas, il y a 1 million de messes qui sont dites ce jour-là, et sacerdoce royal a pour mission d'en faire une seule messe. Avant la fête de Saint-Michel-Archange. C'est la dernière messe de Saint-Michel-Archange avant l'avertissement, il n'y en a plus.
Pardon, ma chapitre.
Pas besoin d'être prophète pour le savoir. Hein? Chaque messe fait
le truc de
la messe du chemin.
Non, mais c'est sûr, c'est incroyable. On vit des moments incroyables. C'est vertigineux, surnaturellement parlant, ce qu'on est en train de vivre là. Pas besoin d'être parfait, frère Claude.
Surtout pas moi.
C'est Dieu qui est parfait.
Surtout pas moi.
Si. Notre perfection, c'est qu'on est ouvert pour que la perfection de Dieu, on puisse l'accueillir. On est accueillant de la perfection de Dieu. Et celui qui se sent plus parfait que les autres, il ne peut pas faire ça. Il fera des grandes choses, c'est sûr. Des choses très bien aussi. Mais on ne pourra pas faire ça. On n'est pas parfait. Si on n'est pas parfait, alléluia. Si on est parfait, alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'on est parfait ou pas parfait. Ça n'a rien à voir. On est poussière et cendre et on accueille. C'est pas vrai, frère Claude ?